Chiroquitia néolithique. Le site néolithique de Chiroquitia, qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998, se trouve près du village du même nom, dans le district de Larnaca. Il s'agit d'un village datant du néolithique, de 7500 à 5200 avant Jésus-Christ, qui est exceptionnellement bien préservé par rapport à la plupart des établissements de la même période, non seulement à Chypre, mais dans toute la région de Méditerranée orientale. Le site, avec ses phases successives, représente l'histoire du néolithique à Chypre et fournit des données cruciales sur la progression de la culture néolithique dans la région. Maintenant, faisons un saut dans le passé afin de comprendre les critères selon lesquels les anciens habitants de l'île choisissaient leur lieu de vie, leurs outils, leur nourriture et leur mode de vie. Dès l'époque miocène, l'île de Chypre est séparée du continent où les êtres humains très tôt font leur apparition et où l'on peut observer, du 10e au 9e millénaire avant Jésus-Christ, la transition des sociétés de chasseurs-cueilleurs vers les premières cultures pastorales et agricoles. On peut aussi examiner l'établissement des premiers villages, la domestication animale et la conquête de nouvelles connaissances techniques. La première présence humaine sur l'île remonte au 10e millénaire avant Jésus-Christ, comme en témoigne le site archéologique d'Akrotiri et Tokremnos, ainsi que les trouvailles des fouilles menées au lieu-dit Roudia, au pied du massif montagneux du Troodos. Les fouilles effectuées récemment au lieu-dit Aya Varvara, Asprokremnos et Aios Tichonas Klimonas ont révélé une présence humaine sur l'île pendant le 9e millénaire avant Jésus-Christ. Jusqu'à présent, les villages néolithiques les plus anciens de Chypre, datés de 8300-8400 avant Jésus-Christ, date calibrée, c'est-à-dire date qui prend en compte les corrections apportées par la dendrochronologie au résultat de la datation par le carbone 14. Cette période est marquée par l'apparition de communautés florissantes de villages, dont les habitants pratiquent l'agriculture et l'élevage, et exploitent des espèces animales et végétales domestiquées, malgré le fait que leurs ancêtres sauvages étaient totalement inconnus jusqu'alors à Chypre. Cette culture est connue comme néolithique pré-céramique chypriote. Pré-céramique, parce que les habitants de Chiroquitia ne maîtrisaient pas la technique de la céramique. Cette culture est représentée par Chiroquitia et encore 20 sites dispersés sur l'île. Du cap Apostolos Andreas Castros à l'extrémité nord-est, jusqu'à Coletria Ortos sur la côte sud-ouest, et de Trouli et Petra Toulimniti au nord, jusqu'à Kalavassos Tenta et Pareklisia Skilourokambos au sud, sans oublier le centre de l'île avec les sites de Dali Agridi et Kataliondas Kourvelos pour ne citer que les villages mis au jour par les fouilles. L'origine du nom de Chiroquitia. En ce qui concerne l'origine du nom de Chiroquitia, la grande encyclopédie de Chypre explique. Selon l'opinion dominante, le nom du village est composé des mots Chiros, cochon en français, et Kiti, le lit en français, c'est-à-dire le lieu d'élevage des cochons. Selon une autre version, le nom initial était Sidirokitida, c'est-à-dire le site où se trouve le fer, Sidiros en grec. On dit encore que le nom provient du mot Chirogetia, qui évoque la pratique de chiromancie. Selon une opinion différente, le nom Chiroquitia tient son nom du nom Hierokitida, lieu sacré. Une autre opinion pleine d'imagination soutient que le nom vient des mots hieros, le tour, et ikia, l'habitation, du fait que les habitations préhistoriques découvertes sont de plan circulaire. En outre, selon la légende, le nom provient de la phrase Herekitia, adressée par la mystérieuse et notoire Rigena, reine de Chypre, à une certaine amie de Kition. On dit aussi que le nom vient du chérimolier, Anona chérimola, qui était cultivé sur l'île sous le nom de chérimolia. Pourtant, cette version est peu crédible. Par ailleurs, le village apparaît parfois sur les cartes anciennes sous le nom de chérochética ou chérochitia. Les fouilles. Le site de Chiroquitia a été découvert en 1934 par l'archéologue chypriote Porphyrios Dikeos, entre 1936 et 1946, Tikéos y menant au nom du département des Antiquités plusieurs campagnes. L'exploration du site fut reprise en 1976 par la mission archéologique française de Hiroquitia, sous l'égide du Centre national de la recherche scientifique, CNRS, et du ministère des Affaires étrangères et européennes de la France, sous la direction d'Alain Lebrun. Le site se caractérise par la forte présence de données archéologiques remontant au passé le plus lointain de l'histoire de Chypre. Datant du 7e millénaire avant Jésus-Christ, le village néolithique de Hiroquitia est accroché au flanc d'une colline dans la partie est du site. Sa découverte en 1934 a rendu le nom de Hiroquitia célèbre dans le monde entier en raison des informations et des découvertes importantes faites sur le néolithique chypriote. Le site. Le village pittoresque de Hiroquitia est situé dans un paysage vallonné du district de Larnaca, à environ 33 km de la ville de Larnaca. Au sud-est, le village est relié aux villes de Lemessos et Lefkosia par l'autoroute Lefkosia-Lemessos. Au nord, il est relié aux villages de Pano et Kato Lefkara et au nord-ouest, au village de Vavla. Hiroquitia est à une altitude moyenne de 220 mètres au-dessus du niveau de la mer et son paysage est fragmenté par la rivière Ayos Minas. La précipitation annuelle moyenne est de 450 mm. On y cultive toutes sortes d'agrumes, des oliviers, des caroubiers, des céréales, des fourrages, des légumes et peu d'arbres fruitiers. Au nord-est du village, l'usine de traitement d'eau de Hiroquitia est alimentée par l'eau des barrages de Lefkara et de Dipotamos. Une fois traitée, l'eau est canalisée à travers un système de tuyaux vers les régions de Lefkosia, Larnaca et Amoukhostos pour assurer leur approvisionnement en eau. Hiroquitia est installée sur les versants d'une colline située sur la rive ouest de la rivière Maroni, à 6 km de la côte méridionale de l'île. Les zones construites sont traversées du nord au sud par une structure longiligne construite en pierre, long de 185 mètres. Cette structure a été mise au jour par Porphyrios Dikeos, qui pensait qu'il s'agissait de la rue principale de l'établissement. Pourtant, plus tard, la poursuite des recherches a fait apparaître une réalité tout autre. La structure en question était le mur du village, qui peut être détecté au périmètre de la zone bâtie, à une distance de 260 mètres. Il s'agit en fait d'un des témoignages les plus spectaculaires de la première présence humaine stable et permanente sur l'île. Cette construction demande un effort collectif, ce qui implique une structure sociale complexe. Ce mur a été utilisé jusqu'au moment où l'établissement a débordé cette limite. L'extension de l'établissement a abouti à la construction d'un nouveau mur en pierre qui peut être reconnu sur une longueur de plus de 100 mètres, dont 60 mètres ont déjà été découverts. Le climat et l'environnement. Les découvertes scientifiques indiquent un important changement climatique en Europe et au Proche-Orient vers 6200 avant Jésus-Christ. Les campagnes de fouilles et la recherche hydrogéomorphologique sur le site de Hiroquitia attestent de l'existence de plusieurs épisodes de cours d'eau torrentiels qui ont entraîné une forte érosion des sols. Après cette période, les conditions climatiques semblent se stabiliser pour correspondre au climat méditerranéen tempéré. Les études anthracologiques montrent une image assez similaire. Pendant la phase primitive de l'établissement, on trouve des oliviers, des figuiers, ainsi que des fabacées. Plus tard, certains arbres seront moins bien représentés, alors que d'autres arbres seront plus communs, comme par exemple les pins. Les habitations. L'habitation de Hiroquitia est une construction circulaire dont le diamètre externe varie entre 2,30 m et 11 m, et le diamètre interne varie entre 1,40 m et 7,50 m. La partie inférieure des murs en pierre est conservée. Pour la partie supérieure des murs, les matériaux mis en œuvre sont le mortier, la paille, la brique crue et la pierre. Les toits étaient plats, en terrasse, et couverts de matériaux comme le bois, des branchages, de la paille et de la terre. Un foyer occupait le centre de l'habitation. Les fouilles ont démontré que la maison se définissait comme le regroupement de plusieurs de ces constructions circulaires autour d'un espace non couvert où se trouvait une installation à broyer les grains. La plupart des habitations néolithiques disposaient d'une sous-pente utilisée comme lieu de stockage. En outre, les entrées étaient étroites et le seuil était légèrement surélevé de façon à protéger l'espace intérieur des inondations. Il semble que les murs étaient ornés de peintures murales. Cependant, leur mauvais état ne permet pas aux chercheurs de constater s'il s'agit de motifs géométriques ou figuratifs. En ce qui concerne la couverture des habitations, la toiture en coupole était la solution la plus fréquemment retenue. Cependant, les recherches effectuées par la mission archéologique française ont démontré que le toit était plat. L'un des sols d'une construction fouillée était recouvert d'une couverture de ce type effondrée en un seul bloc à cause d'un incendie. L'assemblage des fragments de pisé a permis de restituer la toiture originale. L'une des deux faces des fragments portait des empreintes de branchages et de roseaux, recouverts de couches de pisé et soutenus par des traverses en bois. Une autre découverte importante de la mission française, à l'extrémité nord-ouest du site, qui semble aussi représenter la limite de l'établissement, est la structure circulaire composite des murs de certaines habitations, qui combine un anneau intérieur de briques crues et recouvert de mortier, et un anneau extérieur entièrement en pierre. Ce nouveau type architectural, qui remonte au début du 7e millénaire, évoque les premières maisons palestiniennes de la culture natoufienne, datant du 8e et du 9e millénaire, à laquelle il semble être associé de manière directe ou indirecte. La forte augmentation du nombre de visiteurs pendant la décennie de 1980-1990 et leur impact négatif sur les anciens monuments et les sites archéologiques ont soulevé la question cruciale de la protection des antiquités de Chypre. Dans une volonté de protéger la richesse archéologique de l'île et en même temps de mettre à niveau les services apportés aux visiteurs, le département des Antiquités a lancé l'élaboration de projets généraux de gestion des sites archéologiques. Ainsi, en 1994, le département des Antiquités a entrepris un programme de protection et de mise en valeur du site archéologique de Hierokitia. Afin de rendre le site plus compréhensible aux visiteurs, le département des Antiquités, en partenariat avec la mission archéologique française de Hierokitia, a entrepris la reconstruction de 5 éléments d'habitation circulaire, ainsi que d'un tronçon du mur d'enceinte et d'un des dispositifs d'accès au village. La reconstruction a été réalisée conformément aux pratiques de construction traditionnelles et avec l'utilisation de matériaux traditionnels provenant du site de la rivière de Maroni qui coule à côté du site archéologique. À l'intérieur des habitations sont placées des répliques d'objets néolithiques. L'homme et ses croyances. Les pratiques funéraires dans l'établissement de Hierokitia révèlent de façon significative la piété de ses habitants, provenant de leur respect des morts et leur culte. Les sépultures sont des inhumations individuelles. Le corps est le plus fréquemment couché sur le côté droit, en position contractée, dans des fosses creusées à l'intérieur même des habitations. Une fois la fosse comblée, le sol de l'habitation est remis en état. Des pratiques funéraires complexes sont révélées, grâce entre autres à une sépulture dont l'excavation a permis aux archéologues de reconstituer la série de différents gestes, du moins certains gestes, qui accompagnaient l'enterrement d'une femme adulte. Le corps était parfois mis en terre avec des offrandes funéraires en fonction du sexe du défunt. Dans un certain nombre de cas, on place également dans la fosse des objets d'usage quotidien, comme les récipients en pierre, brisés ou intacts, les colliers de coquillages marins et de perles en pierre. De plus, dans certaines fosses, une pierre brute ou travaillée est placée sur le corps. C'est ainsi que les habitants de Hierokitia croyaient empêcher le retour du défunt dans le monde des vivants. Un autre objet funéraire est une petite tête de femme en argile dont les traits sont représentés de manière naturaliste et les cheveux ondulés en relief. Cette idole en argile est unique en son genre et l'exemple le plus ancien de l'art plastique chypriote. Les décors muraux découverts sur le site sont très rares et en mauvais état, ce qui les rend peu compréhensibles. Pourtant, on peut voir les restes d'une composition sur un des décors muraux, les plus clairs, trouvés sur le site de Kalavassos Tinta. La décoration représente au moins deux figures humaines, les bras levés, dont la posture rappelle celle d'une figure décorant un petit bol recueilli à Hierokitia, et celle des figures du site de Çatal Uyuk en Anatolie. Ce qui nous permet de conclure que la représentation de la figure humaine faisait part de la thématique de l'imagerie. La figure humaine est aussi le thème dominant des figurines trouvées, ce qui met en évidence des similitudes avec les cultures du Proche-Orient. Les figurines sont toutes en pierre, à l'exception d'une tête modelée en argile, trouvée sur le site de Kyrokitia et exposée actuellement au musée de Chypre à Lefkosia. Certaines figurines humaines sont soit de silhouettes découpées sur un petit galet par des encoches latérales, parfois complétées par une encoche verticale marquant les jambes, soit des représentations plus abstraites. Pourtant, il y a des pièces où le travail de mise en forme est plus poussé et où l'on peut voir plus de détails. De tels exemples sont exposés au musée de Chypre, salle 1, à Lefkosia, et au musée archéologique du district de Larnaca, salle 1, à droite. L'absence de la figure féminine dans l'imagerie du néolithique pré-céramique chypriote est particulièrement frappante, étant donné qu'au Proche-Orient, déjà à partir du 9e millénaire, on voit se multiplier les représentations de la figure humaine, d'abord, et par prédilection sous une forme féminine. Sur l'ensemble du site, plus de 240 sépultures ont été découvertes. Elles contiennent, pour la plupart, les restes d'enfants et de nourrissons, ce qui indique un taux de mortalité élevé parmi les enfants et les adolescents. Les études scientifiques des squelettes et des crânes trouvés sur le site indiquent que la durée de vie moyenne des habitants de Kyrokitia était de 35 ans pour les hommes et de 33 ans pour les femmes. Les recherches craniologiques et anthropologiques ont montré que la plupart des habitants du village avaient un crâne très court. Ce phénomène, en combinaison avec la présence de l'obsidienne, de la cornaline, de l'hématite et de plusieurs pierres précieuses parmi les mobiliers, fut l'objet de nombreuses réflexions, qui ont abouti à diverses théories ayant trait à l'origine des premiers habitants de l'île et le développement du néolithique acéramique chypriote. Des théories liées à la présence de l'obsidienne, de la cornaline et des pierres précieuses n'existant pas dans les couches géologiques de l'île et provenant de la région centrale de l'Asie mineure, Anatolie sud-ouest, de Palestine et de l'île de Délos, soutiennent que les premiers habitants de Chypre sont venus notamment de Palestine et que quelques tribus sont probablement venues d'Asie mineure en apportant avec eux ces matériaux. Le musée de Chypre renferme des outils en obsidienne provenant sans doute de l'Asie mineure ou de Délos. Or, ces théories sont discutées, étant donné que d'autres théories attribuent la présence de ces matériaux, parmi les découvertes du néolithique acéramique de Kyrokitia, aux échanges commerciaux entre l'île de Chypre et les régions avoisinantes. D'après ces théories, le néolithique acéramique de Kyrokitia, et en général de Chypre, est le résultat d'une évolution sur place d'une culture plus ancienne. La différence entre les traits essentiels et les éléments fondamentaux des cultures des régions avoisinantes de l'Asie mineure, Anatolie et de Palestine et celle de Chypre, au cours du 7e millénaire, vient conforter cette idée. Les habitations de plan circulaire de Kyrokitia, remontant environ au 7e millénaire, ressemblent plutôt aux habitations de plan circulaire palestiniennes du Natoufien, datant des 8e et 9e millénaires, et n'ont aucune ressemblance avec les habitations du 7e millénaire à Jéricho ou Malara, Einam, qui sont de plan rectangulaire à sol enduit, rougeâtre et poli. Au cas où les premiers habitants de Chypre seraient venus de ces régions palestiniennes pour fonder des colonies, ils auraient au moins dû construire leurs premières habitations selon leurs principes architecturaux et non selon les principes plus anciens de la période natoufienne. Il n'est pas exclu que des fouilles futures sur les sites préhistoriques chypriotes ne révèlent une période proto-néolithique qui va s'identifier sur le plan chronologique et culturel aux natoufiens palestiniens et que la découverte de nouveaux éléments ne jette une lumière nouvelle sur l'identité jusqu'ici obscure des premiers habitants de l'île. L'outillage. Les habitants de Kyrokitia fabriquaient des outils en silex, en calcaire, en diabase, une pierre dure, et en os animal, souvent de métatarse de chevreuil. Les outils étaient destinés à la recherche des ressources alimentaires, à la préparation de la nourriture et à des activités de transformation d'objets. Les outils découverts ont été utilisés pour la moisson, la fente des roseaux, le travail du bois et le grattage des peaux fraîches. Les outils osseux, abondants, ont été utilisés pour la transformation d'objets qui étaient destinés, entre autres, à perforer. Les outils comptent aussi des meules, des marteaux et quelques molettes. Les habitants du village maîtrisaient donc le travail de la diabase utilisée pour fabriquer des vases en pierre qui sont caractéristiques de la période acéramique chypriote de 7500 à 5200 avant Jésus-Christ. Des matières périssables, bois, vannerie, peau, ont très certainement été employées, mais il n'en reste rien. Les récipients en pierre, en revanche, sont nombreux, de formes variées, tirés de plaques ou de blocs de brèche ou de calcaire dur. La vaisselle fine compte des bols et des bassins façonnés à partir de fragments de calcaire tendre. Une autre roche, comme la picrolite, une pierre tendre de couleur verte, a été employée pour la confection d'éléments de parure. La picrolite était dérivée de galets usés par l'eau de la rivière Kouris, à l'ouest de Lemessos. Sur le site de Kirokitia, une cache comportant un lot d'environ 20 galets non taillés atteste, selon les archéologues, de l'existence d'un réseau d'approvisionnement en picrolite qui devait couvrir l'île entière, d'autant plus que des objets en picrolite ont été trouvés aussi dans le petit village de pêche du cap Andreas Castros, au bout est de Chypre. Les colliers de coquillages en cornaline, en hématite, en andésite et d'autres pierres précieuses témoignent du goût raffiné des habitants de Kirokitia, tout comme les décors qui ornent certains des récipients en pierre. L'économie et les activités. L'élevage, la chasse, l'agriculture et la cueillette des fruits sauvages fournissent l'essentiel des ressources alimentaires. En ce qui concerne la pêche, compte tenu de la taille des poissons capturés, par exemple le mérou, la dorade et le mulet, des techniques de capture élaborées impliquant l'usage des filets de bon maillage ou de lignes armées d'hameçons robustes devaient être utilisées. L'agriculture était basée sur la culture des céréales et des légumineuses telles que les lentilles. À ces ressources produites s'ajoutaient celles qui étaient fournies par les arbres sauvages et étaient cueillies. Pistachiers, figuiers, oliviers et pruniers. Tenus à l'extérieur du village, étaient élevés des moutons, des chèvres et des porcs. Les Chypriotes néolithiques pratiquaient aussi la chasse des daims, cependant les méthodes de chasse sont inconnues. L'absence de pointes de flèches implique l'existence d'armes rudimentaires, par exemple des hampes en bois, dont la pointe est durcie par le feu, et des pièges. La découverte par la mission archéologique française de grains de céréales carbonisés, blé amidonier, engrain, épeautre, orge, ainsi que de légumineuses, démontre qu'à part la viande et le pain, le régime alimentaire des habitants de Kirokitia comprenait le haricot, le petit pois, le pois chiche et les olives, cultivées dans la vallée avoisinante. La culture néolithique acéramique de Kirokitia est marquée par une interruption soudaine au milieu du 6e millénaire. Le village est abandonné pendant une très grande période, près de 1000 ans. L'établissement est réoccupé au 5e millénaire avant Jésus-Christ. En même temps que Kirokitia, la culture néolithique acéramique chypriote est développée et poursuivie à Tinta de Kalavassos, à Trouli, dans le district de Kyrenia, à Petra Toulimniti, et au lieu-dit Castro de Carpas, près du cap Andreas. Pourtant, tous les villages précéramiques de l'île ont soudainement été abandonnés. Après cette période d'abandon, le site de Kirokitia est réoccupé au cours du 5e millénaire. Il s'agit de la culture néolithique chypriote, la dite période néolithique 2, ou néolithique céramique, qui dure jusqu'en 3900 avant Jésus-Christ. Cette nouvelle phase culturelle est surtout représentée par l'établissement de Sotira, et à part Kirokitia, elle est présente dans les couches supérieures à Aios Epictitos, Brissi, dans le district de Kyrenia, à Philia Drakos et à Kalavassos, site A. L'architecture des maisons évolue sensiblement au cours du néolithique céramique. Pourtant, à Kirokitia, aucune trace architecturale de cette période n'est préservée. la vaisselle en pierre est remplacée par les vases rouges à décor peigné, Tenisti, découverts notamment sur le site de Sotira. Les vases les plus représentatifs sont les grands récipients à lait munis d'un bec verseur semi-circulaire. En même temps, la fabrication de vases en andésite se poursuit conformément à la pratique acéramique. Les rituels funéraires, l'artisanat, l'agriculture et l'élevage ne présentent pas de grands changements, tandis que le niveau général, économique et culturel des habitants de Kielokitia est à peu près le même que celui des habitants qui avaient abandonné le village 1000 ans auparavant. Aucune trace architecturale de ce nouvel établissement n'est préservée. Les données dont disposent les archéologues ne sont pas suffisantes pour expliquer son brusque abandon. Les analyses palynologiques ne laissent apercevoir aucun changement des conditions climatiques qui auraient détruit l'équilibre écologique de l'île et entraîné une diminution dramatique des ressources alimentaires. Aucune trace de catastrophe naturelle, d'épidémie ou d'un abandon à la suite d'actions ennemies. L'incertitude qui marque le début du néolithique pré-céramique chypriote en marque aussi la fin. En effet, aucune trace n'annonce l'émergence soudaine d'une culture si bien structurée et si différente, sur plusieurs aspects, des autres cultures connues du continent d'Asie mineure. Toutefois, un faisceau d'indices concourt à indiquer l'existence d'un lien entre Chypre et le continent, à supposer que la néolithisation de Chypre puisse résulter d'une colonisation qui implique la traversée d'un bras de mer. D'ailleurs, on sait que déjà depuis le Paléolithique supérieur, l'homme de la Méditerranée orientale maîtrisait l'art de la navigation. Le premier indice est la présence sur les sites chypriotes de matières premières, par exemple la cornaline et l'obsidienne, étrangères à l'île et donc importées. Le second est la faune qui est composée d'espèces nouvelles sur l'île. Le daim au bois plat, le mouton, la chèvre et le porc, mais aussi le chat, le chien et le renard qui remplacent les hippopotames et les éléphants nains qui peuplaient l'île au Pléistocène. Sans doute, les daims et les porcs sont théoriquement capables de traverser le bras de mer qui sépare l'île du continent. Mais cette performance paraît plus improbable pour les moutons et les chèvres, et encore plus pour les chats. C'est encore l'assemblage de céréales et de légumineuses que l'on trouve sur les sites chypriotes et dont on est en droit de supposer qu'il a été introduit sur l'île. Et même si les formes sauvages de certaines d'entre ces plantes existaient auparavant à Chypre, il n'en reste pas moins que ce sont les formes domestiques qui ont été retrouvées sur les sites. C'est-à-dire que, si ce ne sont pas les plantes elles-mêmes qui ont été importées sous une forme domestique, c'est du moins la pratique des manipulations amenant à leur domestication qui l'a été. Ce sont enfin l'usage de décorations murales peintes, la connaissance de la technique du polissage de la pierre et de celle du tissage qui replace Chypre dans un contexte culturel général. Si ces indices parlent en faveur d'une colonisation éventuelle de l'île, ils sont néanmoins insuffisants pour reconnaître la base de départ des colonisateurs, ou du mieux, ils ne fournissent que des indications peu précises. Ainsi, à supposer que l'habitat naturel de Dama Mesopotamica, sous-espèce à laquelle ses caractères morphologiques font appartenir le daim chypriote, n'est pas subi au cours du temps de modifications importantes, c'est vers le Levant en général que renvoie l'importation sur l'île de ces animaux. Il n'en reste pas moins que cette insertion de Chypre dans un contexte général permet, en admettant que l'apparition du néolithique acéramique sur l'île se situe au 9e millénaire, de comprendre l'appropriation de ce nouveau territoire comme un épisode, en milieu insulaire, de ce qui est appelé l'exode néolithique, à côté de l'occupation de la zone méditerranéenne à climat tempéré, des bords désertiques de l'Euphrate, des oasis intérieures de Syrie et de Jordanie, et du Sinaï. Entrons maintenant dans le site archéologique. D'abord, on trouve le bureau du gardien, où l'on peut obtenir tout le matériel informatif disponible, ainsi qu'un guide qui facilite notre déplacement sur le site. À environ 100 mètres, on peut observer les habitations circulaires, une partie du mur d'enceinte et un des accès au village. Ces structures se trouvent dans l'état qu'elles présentaient lors de leur découverte au sommet de la colline. À côté, se situe la rivière de Maroni. On emprunte la rampe pour accéder au site archéologique accroché à flanc de colline. Le site est divisé en quatre zones, un aménagement qui ne correspond pas aux données du néolithique. La zone A renferme à droite les vestiges du mur d'enceinte qui grimpe jusqu'au sommet de la colline. En outre, on peut voir les bases des unités d'habitation circulaire. Au centre, on distingue une grande construction, IA, dont le diamètre extérieur est de plus de 8 mètres. Deux piliers massifs en pierre supportaient une sous-pente. Il faut noter que quatre constructions semblent être construites l'une sur l'autre, ce qui indique leur occupation continue. Quelques habitations abritent un foyer encore visible au centre, destiné à faire cuire les aliments. En continuant sur la colline, on avance le long de la zone B, où on peut voir les vestiges de la première construction, XX, identique à l'habitation précédente. Elle est très grande et renferme deux piliers en pierre. De plus, on peut distinguer deux meules placées sur un fondement semi-circulaire. L'habitation XXIX est munie d'une aire de battage circulaire pavée, dont la présence indique les activités des habitants. Un peu plus haut, on entre dans la zone C, où les premières constructions ne présentent aucune particularité. Le département des Antiquités a effectué quelques interventions afin de protéger les anneaux en briques du mur des habitations. Le mur de l'habitation XLV était composé de trois anneaux concentriques, tandis que les deux piliers sont disposés de façon différente. Sept sépultures d'adultes ont été retrouvées dans la même unité d'habitation. Dans l'une des sépultures, l'homme enterré tenait 10 outils en os de sa main droite. L'occupation continue des habitations est aussi confirmée par la construction XLVII qui renferme 8 niveaux de sol. Après la construction XXIII, commence la zone D où on peut voir l'extension de l'établissement. Les vestiges les plus impressionnants de cette zone sont ceux d'un des dispositifs d'accès au village. Il s'agit d'un dispositif unique en son genre, tant à Chypre qu'au Proche-Orient. On a déjà vu une réplique du dispositif près de l'entrée du site. Il faut aussi mentionner la construction S, qui semble avoir été occupée pendant une longue période. On peut aussi y distinguer les restes peu visibles des décors muraux. Bon nombre d'estrades placées sur le site offrent une vue panoramique sur le village et permettent aux visiteurs de prendre des photos. Après la visite du site, les amateurs de randonnée peuvent aussi traverser le sentier qui mène au village de Hirokitia. Le point de départ se trouve en direction du village, juste après l'aire de stationnement, en face de la sortie du village de Tokni et des églises d'Aios Fanourios et d'Aios Nektarios. Le degré de difficulté du sentier est moyen, catégorie 2, en raison de la topographie particulière du terrain.